Donc ce matin, on va parler d'un sujet qui est très important, qui concerne tout le monde. Ça va concerner ceux qui, ici, ce matin, connaissent le Seigneur, mais aussi ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont jeunes et ceux qui le sont moins. Et je voudrais ce matin que chacun puisse repartir avec des instructions à mettre en pratique dans sa vie ou à garder dans son cœur pour les mettre en pratique le moment venu. On en arrive toujours dans l'épître, la première épître aux Corinthiens au chapitre 7. Et ce chapitre 7, alors c'est un chapitre qui est plutôt long, qui n'est pas toujours évident à comprendre, mais qui parle d'un sujet qui est important et délicat, c'est la place du célibat, la place du mariage et les relations sexuelles dans la vie chrétienne. C'est pour ça que c'est un sujet important. Alors peut-être que vous êtes jeune ce matin, trop jeune pour penser au mariage, mais gardez ces paroles dans votre cœur pour qu'elles vous servent le moment venu. Donc on va lire tout le chapitre 7, mais on va s'attarder en particulier sur les 16 premiers versets ce matin. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je dis cela par condescendance, je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Si le non croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Et qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement, que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Bon, c'est un long chapitre. On pourrait parler très longtemps dessus, mais ce matin on va s'attacher donc aux 16 premiers versets. Il y a 15 jours de cela, Michel avait prêché sur la fin du chapitre 6, ce chapitre qui traite du péché, d'un péché en particulier, l'impudicité. Alors l'impudicité, c'est la sexualité à partir du moment où elle sort du cadre que Dieu lui a donné. Et le chapitre 6 se terminait avec ces mots: glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc la parole de Dieu nous commande de ne pas faire n'importe quoi avec notre corps, de ne pas l'utiliser pour désobéir à Dieu, mais au contraire pour le glorifier. Et juste après, alors que commence le chapitre 7, l'apôtre Paul va commencer à parler du célibat, du mariage, des relations sexuelles, et il passe de l'un à l'autre parce que les Corinthiens lui avaient écrit une lettre dans laquelle vraisemblablement il posait plusieurs questions. Alors cette lettre, on ne l'a pas, on ne sait pas exactement ce qu'elle contenait, mais on peut deviner avec les réponses que donne l'apôtre Paul certaines des questions que les Corinthiens ont pu lui poser. Et donc c'est pour ça que l'apôtre Paul fait ce lien entre l'impudicité et le mariage. C'est un peu comme s'il disait, bah tiens, tant qu'on est en train de parler de l'impudicité, je vais vous répondre à votre question sur le mariage. Alors le mariage tel que Dieu le veut, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui sont fidèles l'un à l'autre. Si vous voulez bien ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, il y a un verset que nous allons lire, le verset 24, verset que beaucoup certainement connaissent, qui est cité plusieurs fois dans la parole. Genèse 2, 24, ce sont les tout premiers mots que la parole de Dieu nous donne au sujet du mariage. Il est écrit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc on voit un homme et une femme qui quittent chacun le foyer parental, qui s'unissent et qui restent fidèlement ensemble pour former une nouvelle cellule familiale. Parole de Dieu dit qu'ils ne sont plus deux, mais qu'ils forment une seule chair. Et l'impudicité, au contraire, eh bien, c'est quand un homme ou une femme a une vie sexuelle, seule ou avec quelqu'un, en dehors du mariage tel que Dieu le décrit. Alors les chrétiens de Corinthe avaient pas mal de questions au sujet du mariage, on peut les comprendre. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, le mariage a été, on peut le dire, mis en péril, parce que dès qu'ils se sont retrouvés face à Dieu pour s'expliquer au sujet du fruit qu'ils avaient mangé par désobéissance, Adam a dit « c'est pas moi, c'est elle ». Et Ève a dit « c'est pas moi, c'est le serpent ». Donc on voit déjà l'unité dans le couple était mise à mal, et depuis, l'ennemi de nos âmes a aussi œuvré pour détruire le mariage. Et pour ça, il s'y est pris de plusieurs manières. D'abord, il a semé la discorde entre les conjoints qui auraient dû s'aimer et se sacrifier l'un pour l'autre. Il nous a fait croire aussi que ce qui est important, c'est le plaisir sexuel surtout, et puis quitte à y avoir plusieurs partenaires, s'il le faut, du moment qu'on y prend plaisir, parce qu'après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Ça, c'est ce qu'on entend dans le monde. Et de manière générale, l'ennemi de nos âmes, pour détruire le mariage, a essayé de nous éloigner le plus possible du modèle que Dieu a donné, modèle qui se trouve dans la Bible, c'est-à-dire l'homme qui s'attache à sa femme. Bien, on voit bien que c'est un homme avec une femme. Et le reste de la parole de Dieu nous montre que cette union, c'est une union qui est durable jusqu'à ce que l'un des deux époux cesse de vivre. Alors l'histoire, peut-être même notre propre histoire, nous prouve qu'en matière de vie sentimentale, de vie sexuelle aussi, l'homme a essayé toutes les combinaisons possibles, mais que la seule qui colle à la volonté de Dieu, c'est celle qu'on a lue dans Genèse 2:24, un homme avec une femme fidèlement, et ça pour toute la vie. Et les chrétiens de Corinthe avaient beaucoup de questions parce qu'ils vivaient à une époque où ces questions-là, il n'y avait plus beaucoup de repères justement dans cette société, comme dans la nôtre aujourd'hui. Et ils se demandaient aussi comment un disciple de Jésus-Christ est censé vivre au milieu de tout ça, au milieu de tout ce désordre, au milieu de tous ces exemples différents. Comment est-ce qu'un chrétien doit se conduire avec son conjoint? Est-ce qu'un chrétien doit rechercher le mariage ou est-ce qu'il doit le fuir? Comment vivre sa sexualité dans le mariage? Alors l'apôtre Paul essaie de répondre à ces questions dans ce chapitre. Et il commence par exprimer une première pensée au sujet du mariage. Il dit « Je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Comprenez, il vaut mieux rester célibataire et abstinent. » Alors la prochaine fois, on développera un peu plus ce que pense le Seigneur au sujet du célibat. Et on verra notamment pourquoi on trouve ces conseils dans le Nouveau Testament. Mais on voit tout de suite que si l'apôtre Paul parle du célibat, il tempère tout de suite son propos. Il dit « Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque femme ait son mari et que chaque mari ait sa femme. » C'est important de préciser, de voir que l'apôtre Paul n'est pas du tout contre le mariage. Un peu plus loin, on l'a lu, il dira qu'un célibataire ne pêche pas s'il se marie à partir du moment où il se marie dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'un chrétien épouse une chrétienne. Il dira aussi de très belles choses au sujet du mariage, dans l'Épître aux Éphésiens par exemple. Il parlera de l'amour, du sacrifice. Et dans ce chapitre 7 de la première Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit que le mariage, c'est un rempart contre l'impudicité. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Il y a clairement, dans ses premiers versets, il fait référence aux pulsions sexuelles qui peuvent nous animer, qui peuvent parfois être difficiles à gérer et à tel point qu'elles peuvent venir en occuper toutes nos pensées. En cela, le mariage permet de vivre la sexualité d'une manière qui honore Dieu, avec un conjoint auquel on est fidèle. Quand on est marié, quand on reste fidèle à son conjoint, ça c'est évidemment une condition sine qua non, ça nous donne la possibilité de vivre la sexualité telle que Dieu l'a voulu, dans l'amour, dans la confiance, sans qu'il y ait recours à des artifices, à de la pornographie, sans multiplier les partenaires, sans aller papillonner à droite à gauche. Alors bien sûr, le mariage, ça ne se résume pas à la sexualité, heureusement. Il y a de nombreuses choses qui sont belles, magnifiques même dans le mariage, et notamment le fait de connaître, de mettre en pratique l'amour du Seigneur Jésus pour son conjoint, de le recevoir aussi. Mais dans le texte qu'on étudie ce matin, on voit que le mariage est pour l'instant abordé surtout sous l'angle de la sexualité, qui est un des moyens que deux époux ont pour se témoigner l'un à l'autre l'amour du Seigneur. Et je crois que si l'apôtre Paul en parle autant, c'est parce que il y a un domaine, c'est un domaine dans lequel l'homme en général, l'homme et la femme, sont faibles. Alors je ne veux pas faire de généralité, je ne voudrais pas appliquer à tout le monde ce qui n'est peut-être un combat que pour quelques-uns, mais il faut reconnaître que tous, d'une certaine manière, nous sommes entraînés par nos appétits charnels. C'est pas pour rien que le Seigneur a dit, quand il parlait de ces choses, dans Matthieu 5, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Il sait bien qu'il nous suffit souvent d'un seul regard pour nous laisser entraîner à beaucoup plus. Il suffit d'un regard pour qu'il y ait des désirs qui s'enflamment, et il suffit d'un pas pour qu'on passe à l'acte. L'apôtre Paul, il dit d'ailleurs qu'il vaut mieux se marier plutôt que de brûler. Comprenez, brûler de désir. Et même si dans la parole du Seigneur qu'on vient de lire, il est question des hommes, n'imaginons pas que cela ne concerne que les hommes. Parce que ce qui est problématique ici, ce n'est pas le mal, c'est le cœur humain qui est pécheur. Et le Seigneur dit aussi que de notre cœur, à tous, hommes et femmes, sortent les impudicités, les adultères, les mauvaises pensées. Alors que penser du désir? Que penser de ces pulsions sexuelles? Bien, déjà il faut préciser que Dieu nous a créés sexués. Quand il a créé l'homme et la femme. Et il nous a donné la capacité de nous multiplier. Mais on voit qu'il a aussi donné, d'une certaine manière, le désir sexuel. Si vous regardez dans Genèse 2, on a lu le verset 24, et juste avant, il y a le verset 23. Le verset 23 décrit la première réaction d'Adam quand il a vu Ève. Et il dit: voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et on voit dans cette expression, il y a quelque chose qui pousse spontanément l'homme à vouloir s'approcher de sa femme, à vouloir être proche de celle qui lui ressemble, qui a été créée pour être son vis-à-vis, celle que Dieu a fait pour qu'elle lui soit semblable. On voit que ce désir, cette proximité, cette transparence qu'il pouvait y avoir au début entre les deux époux a vite été rompue, gâchée, transformée par le péché. On voit qu'Adam et Ève ont donné naissance à une génération corrompue, et très vite, dès les premières pages de la Bible, on voit que le mariage a été mis à mal. On voit apparaître la polygamie, par exemple, très tôt. Et dès que Dieu va donner à Moïse la loi, il y aura un certain nombre de commandements qui concerneront la sexualité et qui vont faire état de tout un tas de pratiques qui sont de la désobéissance vis-à-vis de la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que ces pulsions, ces désirs qui au départ étaient conformes à la volonté de Dieu, qui devaient servir le but de Dieu, eh bien, se retrouvent aujourd'hui bien souvent à servir le péché, à être sous le contrôle du péché. Et donc Paul dit que pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Oui, mais est-ce que être marié empêche de tomber dans l'impudicité? Est-ce que c'est la solution? Juste être marié? Eh bien, c'est bien connu que non. Ça se saurait s'il suffisait d'être marié pour ne plus tomber dans l'impudicité. Il y en a beaucoup qui, malgré le mariage, malgré des promesses, des serments de fidélité l'un à l'autre, sont tombés dans les bras de quelqu'un d'autre. Et il y en a peut-être encore plus qui se sont livrés, malgré ce lien du mariage, à la pornographie, qui peut-être même en sont devenus addicts. Si c'est votre cas, ne restez pas seul avec ça. Demandez de l'aide. Et c'est pour ça qu'il est dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. C'est ce qui fait parfois pas tout le temps, mais éclater certains mariages. Ce qui fait tomber certains conjoints dans l'impudicité, c'est qu'ils sont allés chercher ailleurs ce que leur conjoint leur a refusé. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas d'excuser l'adultère, ni les relations sexuelles qui sortent du cadre biblique. Mais quand Paul dit que le mari doit rendre à la femme ce qu'il lui doit et vice-versa, ça montre que l'un n'a pas à refuser son corps à l'autre et que aucun des conjoints n'a le droit de forcer l'autre non plus à avoir des rapports qui ne sont pas désirés. Alors, je parle de choses qui sont très terre à terre, j'espère ne choquer personne, mais on voit que dans ces choses qui sont terre à terre, il y a une manière de manifester de manière pratique l'amour du Seigneur Jésus, parce qu'il s'agit de faire davantage attention aux besoins de son conjoint qu'à ses propres besoins. Au verset 28 du chapitre 7 qu'on a lu, Paul parle de conjoints qui auront des tribulations dans la chair. Ça veut dire des désaccords, des combats, des luttes, des disputes. Et il peut se passer des choses difficiles, affreuses même, dans un couple, quand il y a un des conjoints qui se refuse à l'autre pour se venger, ou qui utilise les relations sexuelles pour faire pression sur l'autre, pour le faire céder. Et on pourrait parler aussi de ce qui se passe quand l'un des deux force l'autre. Ça n'est ni plus ni moins qu'un viol, même s'il y a un mariage. Ou simplement quand on méprise, quand on reste indifférent aux besoins sexuels de son conjoint. La parole de Dieu, on l'a lu, dit qu'on doit glorifier Dieu dans notre corps comme dans notre esprit, parce que les dieux appartiennent à Dieu. Et traduit dans le domaine du mariage, ça veut dire qu'aucun des conjoints n'a le droit de décider ce qu'il fait de son corps, mais qu'il doit se soumettre à l'autre. Vous savez, dans la parole, il est souvent question de la soumission de la femme à son époux. Ça fait bondir certaines personnes. Mais remarquez que là, la soumission est réciproque. Donc on voit que la première des soumissions dans le couple, c'est la soumission de l'un à l'autre. Les deux conjoints sont mutuellement soumis l'un à l'autre. Et quand ils se donnent l'un à l'autre de cette manière, ils peuvent mener une vie pure, sans impudicité. On voit que satisfaire les désirs de son mari, c'est un devoir. Satisfaire les désirs de sa femme, c'est un devoir. Et de même que respecter que l'un ou l'autre soit indisposé ou n'ait simplement pas envie de relations sexuelles à un moment donné, ne pas lui mettre de pression pour lui faire sentir combien on est frustré. Ça aussi, c'est faire preuve d'amour. C'est s'offrir soi-même en sacrifice et de bon cœur. Ça nous fait vivre la croix, ça aussi, dans le mariage. Quand chacun peut renoncer à son droit, à son envie, à son plaisir, de bon cœur, par amour, et bien c'est l'amour de Christ qui est mis en pratique. Parce qu'on n'est pas appelé à vivre pour ce qui nous plaît, mais pour plaire à Dieu et à notre prochain. Et Paul termine ce paragraphe en donnant un avertissement. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Vous savez, le Seigneur sait qu'on est faible. Il parle d'incontinence, c'est-à-dire de l'incapacité à se retenir. Il parle aussi de tentation. Et l'ennemi sait jouer avec ces choses-là pour nous faire tomber dans le péché. Et dans ce domaine-là, péché, ça peut ruiner un mariage. Ça peut ruiner une famille. Ça peut même ruiner une église. Alors, voyons ces choses comme une exhortation à faire preuve d'amour vis-à-vis de notre conjoint, à demander pardon aussi à notre conjoint si on a péché contre lui. Et si par moment on veut vivre un temps de consécration en s'abstenant de relations sexuelles, assurons-nous que notre conjoint est au courant et d'accord pour cela, pour que la puissance des désirs et la tentation ne l'entraîne pas à regarder ailleurs. Donc on voit que Dieu, de manière générale, accorde beaucoup d'importance au mariage. C'est lui qui en est à la base, c'est lui qui l'a créé, et c'est quelque chose, c'est une institution qui est à la base de la société. C'est ce qui régit beaucoup des relations humaines, qui est à la base de la vie et de la famille aussi. Quelque chose dont on doit prendre soin. Et la deuxième partie de notre texte ce matin aborde une autre question que les chrétiens de Corinthe avaient posée à Paul. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, jusque-là, il n'avait pas donné d'ordre. Il avait parlé avec... il a fait appel à l'amour, il a fait appel à la compassion entre les époux, à être à l'écoute des besoins de l'autre. Mais dans la deuxième partie, il commence par employer un ton qui n'est pas plus dur, mais qui est plus catégorique. Il dit « J'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur ». Et ça nous montre que là, il va commencer à aborder le mariage, non plus sous l'angle de la sexualité, mais du point de vue de la loi de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ordonne, pas parce qu'il est apôtre, pas parce qu'il a reçu l'autorité, mais parce qu'il cite les ordres mêmes du Seigneur. Et quels sont ces ordres ? D'abord, que la femme ne se sépare pas de son mari, que le mari ne répudie pas sa femme. Ça veut dire pas de divorce. Dieu n'a jamais envisagé le mariage comme quelque chose d'éphémère, comme quelque chose auquel on pourrait mettre fin dès qu'on en a assez, dès qu'on en est lassé, dès que les sentiments faiblissent un petit peu ou beaucoup, ou dès qu'on ne s'entend plus. Les pharisiens étaient venus consulter le Seigneur pour ça. Ils lui avaient demandé: est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Et le Seigneur les a renvoyés à la raison d'être du mariage qu'on a lu tout à l'heure dans Genèse 2:24. Il leur a dit: mais n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Alors les pharisiens prenaient appui sur la loi de Moïse pour légitimer le divorce dans toutes sortes de circonstances. Et c'est pour ça qu'ils avaient dit: mais Moïse a prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier. Mais Jésus leur a répondu: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. On voit, c'est un ordre qui est donné aux époux chrétiens de ne pas divorcer. On ne peut pas faire appel à la loi de Moïse pour légitimer le divorce. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on connaît une dimension nouvelle de l'amour de Dieu. Un amour qui va jusqu'au bout, qui ne se rétracte pas quand il y a des difficultés. Et puis, Dieu nous révèle que la séparation est due à un cœur dur. Mais est-ce que Dieu nous a donné, à nous qui avons le Saint-Esprit, un cœur dur ? Qu'est-ce que dit la parole ? Il dit : j'ôterai de votre corps le cœur de pierre pour lui donner un cœur de chair. Le chrétien n'est plus censé avoir un cœur dur. Et puis une autre raison qui devrait empêcher à tout prix le divorce entre deux chrétiens, c'est que le mariage révèle l'évangile. Quand un chrétien épouse une chrétienne, ça montre au monde l'alliance que Dieu fait par l'évangile. C'est une alliance qui est éternelle, c'est un amour qui est indéfectible. Et quand deux chrétiens divorcent, eh bien, ce qu'ils disent au monde, ça n'est ni plus ni moins que l'amour de Dieu n'est pas éternel. C'est un contre-témoignage de l'amour du Seigneur. Parce que le Seigneur, lui, reste fidèle, malgré nos infidélités. Alors, vous allez peut-être me dire, oui, mais et la personne qui est victime de violences conjugales, alors ? Je voudrais déjà dire qu'aucun chrétien ne devrait user de violence envers son conjoint, d'aucune manière, que ce soit de violence physique ou de violence morale. Mais s'il arrivait qu'une telle situation se présente, ou qu'une personne mariée à un conjoint non converti, qu'une personne chrétienne soit marié à un conjoint violent, eh bien, il me semble que les paroles de l'apôtre Paul s'appliquent ici. Il dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Dans la mesure du possible, chercher la réconciliation qui est la voie de Dieu, le pardon, l'amour, l'amour qui croit tout, l'amour qui excuse tout, qui pardonne tout. Bien sûr que dans le cas d'un couple où il y a des violences conjugales, une séparation de corps sera largement envisageable. Mais la promesse de fidélité, la promesse d'amour, la promesse de loyauté est toujours valable. Dieu la considère comme valable, même si le conjoint est violent. Je ne dis pas que c'est facile. C'est même, à mes propres yeux, je ne connais pas cela, mais c'est à mes propres yeux un défi immense que de faire face à une situation comme celle-là. Mais ça n'est pas impossible au Seigneur de changer un conjoint violent en une personne douce. Par contre, la situation est différente quand une personne déjà mariée se convertit au Seigneur et que son conjoint qui est incroyant décide de se séparer. Alors, et uniquement dans ce cas, la parole dit que Dieu ne tient pas le chrétien pour responsable de la séparation et qu'il ne pêche pas tant qu'il n'est pas à l'origine de la séparation ou du divorce et tant qu'il ne fait rien pour favoriser la mésentente. Il ne serait pas question pour un chrétien de pourrir les relations de couple pour forcer l'autre à divorcer en se disant ben, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est lui. Mais si le conjoint incroyant accepte de rester, eh bien le mariage, c'est une opportunité de vivre l'évangile et de le témoigner à son conjoint. C'est comme ça que Dieu fait aussi pénétrer l'évangile dans une famille. Si vous êtes la seule personne chrétienne de votre famille, eh bien réjouissez-vous parce que Dieu vous a placé là pour une raison, pour témoigner auprès de vos proches de son amour. Je voudrais préciser sur ce passage qu'il ne cautionne en aucune manière le fait qu'un chrétien puisse épouser un non-chrétien. Là, il est vraiment question d'une personne qui se convertit alors qu'elle est déjà mariée, et non pas d'une personne, d'un chrétien qui va épouser quelqu'un qui ne croit pas. La parole de Dieu, elle dit que le conjoint qui ne croit pas est alors sanctifié par celui qui croit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas que ses péchés sont pardonnés, mais que l'environnement dans lequel il se trouve, le fait d'avoir un conjoint qui connaît l'évangile et qui le vit, c'est quelque chose qui sanctifie, qui le met à part, qui le met dans une situation privilégiée pour voir l'évangile vécu d'une manière concrète dans son foyer. Alors je ne sais pas la situation matrimoniale de chacun ce matin, mais si vous appartenez au Seigneur et que votre conjoint non, votre devoir c'est de vivre l'évangile devant lui, devant elle, pour l'amener au Seigneur. Alors je voudrais conclure ce que nous avons vu ce matin, rappeler un petit peu les différents points qu'on a vus au sujet du mariage. D'abord, on l'a vu sous l'angle de la sexualité. Le mariage permet de vivre une sexualité pure. Le mariage, c'est aussi une voie d'amour, une voie qui demande le sacrifice, qui demande de vivre la croix personnellement à chacun des conjoints dans son couple, en se donnant. Et c'est aussi un engagement qui est sérieux. On fait une seule chair jusqu'à ce que la mort mette fin à l'union. Et Dieu prend très au sérieux cet engagement. Et je voudrais vous donner un verset pour terminer, quelque chose qui me semble un peu résumer ce que l'on a vu ce matin dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 13 et le verset 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous, honoré, respecté. Prenons soin de notre conjoint. Je propose qu'on passe un instant de silence et de prière ensuite. Et si vous vous rendez compte que vous avez quelque chose à régler avec votre conjoint, demandez à Dieu de le faire. Si vous êtes aux prises avec un péché, demandez de l'aide à Dieu, demandez de l'aide à un frère ou à une sœur. Je propose de baisser la tête quelques instants.